Vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 116, les neurones d'un trombone qui rayonne, Florian Maurer. Ah, chers amis, bonjour. Où est-ce qu'il est, le président? Où est-ce qu'il est, le président de l'OUS, l'Orchestre Universitaire de Strasbourg? Le président joue du trombone, et ce n'est pas monotone, ma bonne dame. Voyelle ou consonne, l'après-midi d'un faune, bien ou mal armé, un ou deux Bussy, cantique avec un C pour la musique, et un Q pour la physique. Alors, c'est des petites blagues bourbeuses et potaches. Je m'amuse à jouer à l'étudiant vaseux. Mais aujourd'hui, lui, il est sérieux. Où il est, le président de l'Orchestre Universitaire de Strasbourg? Eh bien, c'est lui, Florian Maurer. Bonjour, Florian Maurer.
Bonjour, Ambroise Perrin.
Vous aimez la musique et la physique quantique. Alors, les petites rimes, c'est comme des farces, mais vous, vous êtes un étudiant très sérieux.
Tout à fait, donc je fais une thèse de physique quantique depuis maintenant 2 ans à l'Université de Strasbourg, après 5 ans à avoir étudié déjà la physique à Strasbourg. Donc, toutes mes études ont été faites ici, dans la physique.
Donc vous faites un doctorat en physique quantique, un peu comme Einstein?
C'est ça, bon, ça a pas mal évolué depuis, depuis une centaine d'années, mais voilà. C'est vrai que Einstein, avec Max Planck, est un des pères de la physique quantique. Et donc, on se base un peu sur ses travaux, même si ça a bien évolué maintenant.
On va revenir là-dessus tout à l'heure, parce que c'est passionnant. Et à côté de ça, vous jouez du trombone.
C'est
alors,
ça.
Quand on voit quelqu'un dans une trombone, souvent c'est dans les fanfares et tout, on se dit, c'est le petit rigolo, celui qui joue du trombone, non?
C'est un peu ça, on a une petite réputation dans les orchestres, notamment d'harmonie ou orchestre avant, où les trombonistes sont un peu les farceurs. C'est un peu différent en orchestre symphonique, mais c'est un peu comme ça que j'ai découvert le trombone, en fait.
Alors, vous n'allez pas nous faire une farce en physique quantique? La farce, ce serait une grosse bombe? Non, c'est pas ça, non.
Non. On sera assez éloigné de ce sujet. Donc
d'accord, oui, c'est comme quand on allait au lycée, dans le petit lycée, les cours de chimie. On demandait au prof, monsieur, on va faire des explosions. Donc vous, la physique quantique, c'est pas ça, c'est l'infini petit, grand. En fait, c'est les neurones qui se divisent pour faire des atomes.
Oui, on est à l'échelle de l'électron, donc on a des échelles vraiment très petites et assez basse énergie. Hein. Pour des explosions, on va être à des énergies très très grandes. Là, on va être à très basse énergie, on va essayer de comprendre la matière.
Très petit, c'est les orchestres quand on est à 3 ou à 4. Et très grand, c'est l'Orchestre Universitaire de Strasbourg. Il y a une centaine de musiciens, c'est ça?
C'est ça.
Officiellement 80, mais vous êtes plus de 100.
C'est ça. En fait, pour une session symphonique, on va être à peu près 85 musiciens. Et sur l'année, on n'a pas loin de 100 membres, avec des personnes qui vont faire qu'un seul projet ou qu'un seul semestre. Mais on n'est pas loin de 100 musiciens, effectivement, pour des grands concerts symphoniques qui attirent souvent beaucoup de monde aussi.
Donc. Oui, parce que les étudiants n'ont pas forcément tout le temps de venir aux répétitions. C'est 2 fois par semaine, hein, je crois.
Une fois par semaine. En plus, certains week-ends aussi pendant le semestre. Et c'est 16 concerts quand même entre septembre et juin. Donc ça fait beaucoup de projets, ça demande un grand investissement. Voilà.
Oui, alors quand on s'enfonce dans un Master 1, Master 2 et tout, on n'a peut-être plus forcément beaucoup de temps pour aller à l'orchestre.
Ça devient délicat, notamment en cette fin d'année où beaucoup d'étudiants ont des examens. Quand on a en plus 3 concerts dans une semaine, ça commence à faire des semaines très chargées. Mais généralement, les musiciens relèvent le défi et tiennent bon jusqu'à la fin de l'année et voilà, permettent de donner beaucoup de concerts.
Alors, moi, j'ai assisté à tous vos concerts depuis quelques années. Et là, je viens d'en voir 2 à Strasbourg. Mais c'est absolument formidable. Alors, la grande différence, et je dis ça aux auditeurs de Radio Judaïca à Strasbourg, et nous invitons donc aujourd'hui Florian Maurer, le président de l'Orchestre Universitaire de Strasbourg. La différence avec les autres orchestres, c'est que sur scène, on les voit, mais ils se marrent tous. Il y a une ambiance. C'est pas du tout guindé. Ils se font des clins d'œil. Il y en a même, j'ai repéré, de temps en temps, leur archer ne touche pas le violon, parce que je pense qu'ils n'ont pas répété la petite partie qui est un peu difficile. Enfin, c'est formidable, cette ambiance.
C'est tout l'idée aussi de l'orchestre. Il y a un aspect social évidemment très important. Tout le monde y cherche de la bonne humeur. Voilà, c'est chaque semaine. C'est comme certains peuvent faire du sport, nous on fait de la musique. Voilà, à l'orchestre, on retrouve aussi des amis. Certaines personnes sont là aussi depuis longtemps, donc il y a des amitiés qui datent maintenant de plusieurs
années.
C'est-à-dire
que quand on a fini son doctorat et son post-doc, on a le droit de rester dans l'orchestre.
Tout à fait, on a beaucoup d'alumni de l'université de Strasbourg qui continuent de participer aux activités de l'orchestre, et ça permet aussi de garder cet ADN de l'orchestre
universitaire. Et il y a des profs aussi dans l'orchestre?
Alors on n'a plus de professeurs, mais on a quelques personnels aussi, administratifs de l'université.
La femme de ménage qui jouerait...
C'est possible.
Oui, voilà. Ça arrive. Enfin, des gens moins,
pas récemment,
moins qualifiés ou plus qualifiés, simplement parce que il y a pas de sots de gens, il y a que de sots métiers. Donc oui, voilà.
Il y a pas de restriction a priori, tout le monde pourrait participer à l'orchestre. Le seul critère, c'est d'avoir un bon niveau musical. Et après,
voilà. Alors, vous faites des auditions avant de rentrer, parce qu'il y a beaucoup de demandes.
C'est ça, on a pratiquement 80 à 100 personnes qui auditionnent chaque année au mois de septembre. Et on va en recruter entre 20 et 30 chaque année. Donc c'est un effectif qui se renouvelle aussi énormément rentrée universitaire, avec de nouveaux étudiants à l'université qui commencent leurs études à Strasbourg et qui intègrent l'orchestre universitaire. On a aussi les étudiants en Erasmus, en échange internationaux, qui vont participer 6 mois ou un an aux activités de l'orchestre. Et c'est ce qui fait aussi cette ambiance particulière de l'orchestre universitaire, avec des étudiants de tous les domaines, de pratiquement tous les âges. Voilà,
il y a aussi des étudiants qui font de la musique du conservatoire.
Tout à fait, on en a quelques-uns, voilà, qui permettent aussi.
C'est les meilleurs, non?
Parfois, oui.
Parfois.
Oui. Évidemment, ça aide quand on a des personnes qui peuvent se consacrer à 100% à la musique,
oui.
Donc qui sont dans un cursus au conservatoire, mais ça reste une minorité au sein de l'orchestre.
Alors, les étudiants Erasmus qui viennent, je dirais comme ça, d'Ukraine, je ne sais pas si avec l'Ukraine il y a encore des deux, mais des pays connus pour avoir de très très bons niveaux, ils débarquent modestement, ils jouent et ils sont des solistes merveilleux, non? C'est déjà arrivé ce genre de surprise?
On a souvent des surprises. Les étudiants allemands, généralement, sont des bons musiciens.
Hein. Ah oui.
Il y a une grande tradition des orchestres universitaires en Allemagne.
Oui.
Et c'est ce qu'on essaye aussi d'avoir à Strasbourg, avec un orchestre de bon niveau.
Strasbourg, c'est un peu l'Allemagne, hein. Il ne faut pas se cacher.
De ce côté-là, il y a un orchestre qui a...
Parce que le niveau de Strasbourg est très très haut. J'ai lu ça, moi, en simple. Donc, simple amateur dont la grand-mère a mis à 5 ans au violon et qui ensuite à 14 ans est passé à la guitare électrique parce que, bien sûr, il y avait Jeff Beck et Eric Clapton, donc, et Jimi Hendrix, j'oublie. Donc, je voulais jouer le tambourin chinois de Fritz Kreisler au violon, mais je me suis arrêté en cours de route. Donc, en tant qu'amateur, et après cette digression, je trouve que l'orchestre a vraiment un très très bon niveau, en toute modestie, c'est vrai.
Il y a une exigence, hein. Déjà notre chef d'orchestre est professionnel, hein. il habite à Lucerne en Suisse.
Alors lui, il est salarié.
Voilà, il est salarié de l'orchestre, et il est en train sa carrière de chef est en train de démarrer, voilà, c'est un jeune chef d'orchestre, et qui nous fait travailler avec sérieux. D'où aussi ces auditions qui permettent d'avoir un minimum de niveau au moment d'intégrer l'orchestre pour donner des concerts de bonne qualité, avec une assiduité. On travaille pendant un semestre, donc ça fait plusieurs semaines de répétition, ce qui permet aussi d'avoir un résultat final qui ravit le public en général.
Alors, We Few, We Happy Few, Band of the Band, vous êtes en tant que président de l'orchestre. Alors d'abord, est-ce que vous avez été élu, vous avez été choisi, ou c'est parce que...
Alors il y a une élection chaque année, en fait, le comité, ce qu'on appelle le comité qui dirige l'orchestre, c'est entre 5 et 10 personnes qui sont élues chaque année pour prendre en charge les différentes charges, quelque part, d'organisation de l'orchestre.
Oui, parce qu'il y a tout l'aspect technique, le transport des instruments, voilà, louer l'autobus, enfin tout ça.
Voilà. La trésorerie aussi.
Récolter des sous, parce qu'on va en parler peut-être aussi tout à l'heure. Et le chef, comment est-ce qu'il est recruté? Alors avant, il y avait Corinna Niemeyer, qui est restée pendant 12 ans.
Tout
c'est,
à fait.
C'est hyper long.
Tout à fait, elle a fait un très très long mandat, et elle a contribué aussi à faire progresser l'orchestre énormément. Et donc Mauro a été recruté en septembre 2022,
oui.
Après un concours qui a accueilli plus de 40 candidatures. Et donc, on a ensuite auditionné des candidats. Et,
alors, quand on dit « on », c'est qui ?
C'est le comité de l'orchestre qui avait organisé voilà, ce concours à l'époque. Et les musiciens ont ensuite voté. Entre deux finalistes. C'est ce qu'on essaye d'avoir, voilà, que les musiciens puissent aussi avoir leur mot à dire sur le.
Et il n'y a pas un peu du spécial copinage dans ces cas-là ?
Non, puisque au final, on avait des candidats qui sont venus à peu près partout en Europe. Hein. Oui. Marron, on ne le connaissait pas avant, par exemple, et ça a été une révélation au moment du.
Il venait du Portugal, je crois.
Il est italien, il a grandi à Bâle, en Suisse. Oui. Il a fait des études à Weimar, en Allemagne, et donc il habite maintenant à Lucerne. Et il fait des trajets spécialement pour nos répétitions.
J'ai lu qu'il parlait six langues, qu'il est tout jeune, il a quel âge, 35 ans?
Oui, il a une trentaine d'années et il parle couramment 6 ou 7 langues. Là, c'est assez impressionnant, mais c'est très utile en tant que chef d'orchestre, puisqu'il voyage aussi beaucoup.
Et en plus, il lit la musique. et surtout, alors, le Tchaïkovski, là, que j'ai vu il y a 15 jours, il l'a dirigé, alors que c'est une œuvre qui n'est pas du tout connue, sans partition.
Tout à fait. C'est récurrent à chaque concert, il va diriger pratiquement l'intégralité du concert en général sans les partitions.
Il apprend par cœur ?
Il connaît par cœur à force de travailler et ça lui permet aussi d'être plus connecté avec les musiciens. On s'affranchit de la partition et il y a un contact encore plus direct entre les musiciens et le chef.
Voilà. Ah oui, parce que on dit toujours à quoi il sert le chef puisque les musiciens lèvent pas les yeux pour le voir. C'est faux, bien sûr. Et il guette, on voit les yeux et on voit, je l'ai déjà dit, une jubilation de la part du musicien quand le chef va lui faire un petit signe, va lui truc et tout. Voilà. Alors, justement, dans le Tchaïkovski, j'ai noté quelque chose, c'est qu'il y a eu un coup de cymbale de plus que prévu. Je pense que c'est le percussionniste qui a voulu se faire plaisir. C'était peut-être le dernier jour, il a rajouté. Et j'ai vu tout de suite la tête du chef qui se levait en disant « Dis donc, arrête de faire le clown, toi, là-haut. »
Ce coup, en fait, est rajouté par le chef. C'est pas dans la partition dont on a l'édition, mais certaines éditions comprennent ce coup de cymbale, qui est le seul coup de cymbale de toute la symphonie. Donc, sur 40 minutes de la 5e symphonie de Tchaïkovski, il y a pas de cymbale, sauf dans les derniers instants, il y a un seul coup de cymbale, donc faut pas s'endormir.
Alors, c'est très frustrant pour l'interprète.
Ça peut être frustrant, mais en même temps, c'est le coup de cymbale de la symphonie, c'est très important.
C'est comme dans un film d'Hitchcock, coup de cymbale qui va tout faire. En tout cas, cette jubilation, c'est absolument formidable, mais pourtant, vous vous prenez tous au sérieux.
Oui, c'est ça. Il y a cet aspect un peu avec une ambiance assez légère quand même et d'amitié, de camaraderie au sein de l'orchestre. Mais on est aussi tous attachés à donner des concerts de bonne qualité, à faire de la musique de bonne qualité. Chacun progresse aussi au final en participant à nos répétitions et à nos concerts. Donc il y a cette rigueur musicale aussi qui est très importante dans ce qu'on va faire.
Est-ce que ces musiciens donc de l'Orchestre Universitaire de Strasbourg jouent aussi encore peut-être ils montent des petits des trios, des quintettes, ils font autre chose aussi
Tout à fait. On a des concerts de musique de chambre chaque année, au mois de janvier, où là, les musiciens sont libres et vont, à leur initiative, proposer des groupes, des pièces, et donc monter des duos, des trios, des quatuors. Et tout au long de l'année, on participe à des événements aussi à Strasbourg, où ces musiciens, en dehors du cadre symphonique, ont la possibilité de se produire en ensemble réduit et de proposer un programme, de jouer
des pièces. Mais avec le label, entre guillemets, OUS.
Tout à fait, au nom de l'orchestre universitaire.
Alors, comment... on a bien compris que vous votez, vous décidez. Je suppose qu'il y en a qui sont pour, qui sont contre, et que voilà, donc ça doit être bien. Puis après, tout le monde est d'accord. Hein, c'est comme à la fin d'Astérix, vous faites un grand banquet et un grand concert. Mais le programme lui-même... Ah, parce que vous ne nous donnez pas systématiquement Bach, Mozart et Beethoven. Hein. C'est du dur. Et quand vous avez Tchaïkovski, c'est un truc que personne ne connaît. Donc, pourquoi vous... Alors, bien sûr, c'est formidable pour les spectateurs ou les auditeurs d'avoir des choses aussi, disons, pointues. Mais vous, comment vous faites pour décider? Qu'est-ce que vous allez jouer ?
Alors, c'est notre chef, Mauro, qui va proposer les programmes qui sont validés ensuite par le comité de direction. Et il y a toujours cette idée de faire découvrir des pièces, non seulement au public, mais également aux musiciens. Donc, sur les concerts dont vous parlez, on a joué la 5e symphonie de Tchaïkovski, qui est quand même un grand classique des orchestres universitaires, globalement. C'est une pièce qui fait plaisir aussi à l'orchestre.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent, donc tout le monde peut s'exprimer, oui.
C'est une musique qui est très belle, qui est très dense et qui correspond très bien au son de l'orchestre. Et on a également joué deux pièces de Stravinsky qui sont beaucoup moins connues.
Oui, en première.
D'une part par les musiciens et également par le public. Donc il y a toujours cette idée de faire découvrir le répertoire symphonique et au grand public, mais aussi aux musiciens. Voilà,
Alors, il y avait la bergère.
C'est ça, le faune et la bergère.
Le faune et la bergère. Alors, pourquoi faune? Parce que ça n'a rien à voir avec le poème de Mallarmé, là. C'est... Non.
En fait, c'est un faune qui va attaquer une bergère. Et il y a une sorte de fuite et de conflit entre les deux. Et c'est une pièce qui est très peu connue, en fait. C'est la deuxième pièce écrite par Igor Stravinsky. Et donc, qui est très, très rarement jouée en concert. Et donc, c'était l'occasion, là, pour ces concerts, de la faire redécouvrir peut-être.
Et alors là, vous avez fait venir une soprano, mezzo.
Mezzo-soprano, c'est
ça. Mezzo-soprano, qui ne fait pas partie de l'orchestre. Dans l'orchestre, vous n'avez pas un chœur, vous n'avez pas de...
Nous, on n'a pas de chanteur, tout à fait.
Non.
Mais on fait venir régulièrement des solistes. On a eu, en mois de septembre, un altiste de l'Orchestre Philharmonique de Berlin, par exemple. Et donc cette fois, on a une chanteuse qui est venue de Nuremberg pour chanter avec nous cette pièce en soliste. Donc on a au moins une fois par an, on accueille un soliste venu d'une autre ville en Europe, par exemple, et qui vient nous interpréter un concerto, ou comme ici, chanter une pièce avec soliste.
Et elle va partir avec vous en tournée?
Tout à fait, donc oui. Elle sera avec nous pour notre départ à Leipzig dans quelques jours.
Dans deux jours, tout à fait. Oui. Mais c'est absolument formidable, à la fois pour elle, parce que c'est quand même la super vedette, et puis pour l'orchestre de se confronter comme ça à une grande dame, hein, qui est un sacré...
Tout à fait, on apprend beaucoup généralement de nos collaborations avec des solistes, et eux aussi, je pense, apprennent de ce fonctionnement de notre orchestre, qui est un peu différent d'un orchestre professionnel. Il y a un cadre un peu plus léger et plus détendu aussi, qui est, je pense, confortable, notamment pour elle, qui nous en parlait, et qui a énormément apprécié cette expérience à Strasbourg avec nous, et en tournée dans les jours à venir.
Alors, vous êtes le président, je le répète. Président, ça consiste à présider aussi le comité.
Hein, tout à fait.
Voilà, être un peu sévère peut-être, ou être un peu rigoureux. Et aussi de faire les annonces avant le concert.
Tout à fait.
Et de dire surtout merci à Mania, ça c'est normal. Et de dire aussi, n'oubliez pas les paniers à la sortie, parce que les concerts sont gratuits et ça coûte énormément d'argent. Et donc, c'est à vous de gérer un petit peu ça.
Exactement. Donc, la présidence, ça implique voilà, d'avoir une vision globale sur toutes les activités de l'association. Et vous en parliez notamment d'un point de vue financier. Notre budget repose quand même en grande majorité sur la subvention de l'Université de Strasbourg, notamment, hein, qui nous soutient, mais également sur des dons manuels, donc à l'issue des concerts. On a énormément de donateurs qui nous permettent de faire les 15 concerts chaque année, de partir en tournée. C'est, sans ces dons, ça ne serait pas possible de faire autant de projets et de continuer de développer à ce point nos activités.
Alors, vous avez joué au Palais U, bon, ça c'est chez vous.
Tout donc, à fait.
Voilà. Mais aussi deux concerts au
Palais des Fêtes.
Au ouais. Palais des Fêtes, là, rue Sélénique. Alors, j'ai appris que ça coûtait 8000 euros.
Oui, pour deux concerts, oui.
C'est complètement dingue, ça.
Il y a des frais qui sont de plus en plus élevés.
Ça n'existait pas avant, ça, si je peux me dire. Il y a, je sais pas, il y a 5 ans, 10 ans, c'est qui vous fait payer ça? C'est la ville ou c'est...
Il y a une partie à la ville et il y a surtout des contraintes de sécurité, d'évacuation incendie aussi, du fait de l'ancienneté du bâtiment. De manière générale, les coûts augmentent hein, pour toutes les associations culturelles. C'est de plus en plus difficile d'organiser des concerts et d'organiser beaucoup de concerts. Parce qu'il y a des frais de sécurité, de contrôle des sacs qu'on ne connaissait pas forcément avant.
Vous pourriez le faire vous-même.
Malheureusement, on a
balayé à la sortie aussi. Oui, vous avez pas le... oui non, mais quand même, il y a des associations qui ne peuvent pas se payer le Palais des Fêtes.
Complètement. Nous, on y joue 4 à 5 fois maintenant chaque année, ce qui est énorme. Hein. La plupart des associations vont pouvoir faire un seul concert chaque année dans le lieu. Ce qui n'est
ou alors ils vont dans des églises ou
des temples, tout à fait. Un problème maintenant à Strasbourg, ça va être de trouver des salles de concert. Pour des orchestres comme le nôtre, c'est de plus en plus difficile de trouver une salle suffisamment volumineuse.
Enfin, vous participez au rayonnement culturel de la ville de Strasbourg. C'est quand même important. On devrait vous payer pour venir jouer, non?
Ah, on en rêverait. Bon, on est soutenu, évidemment, par la ville.
Est-ce que les élus de la culture de Strasbourg viennent au concert, vous saluer et tout?
On a des assez bonnes relations, hein, globalement, avec que ce soit à l'université ou avec la ville de Strasbourg, qui nous soutient et qui nous aide dans l'organisation de...
Alors, peut-être d'un côté, ils vous donnent une subvention, et de l'autre côté, ils la reprennent pour vous faire payer la salle.
C'est un peu ça également. Mais la subvention nous aide quand même à voilà, partir en tournée aussi, développer de nouveaux concerts. On participe à d'autres événements aussi en ville à Strasbourg pour dynamiser un peu la vie culturelle.
Alors, parlons de cette tournée. Donc, vous partez dans deux jours. Donc, vous jouez le jeudi 29 mai à Leipzig, donc ceux qui veulent aller en stop en Allemagne de l'Est ou ex-Allemagne de l'Est, on peut vous écouter. Le 31 mai, vous êtes à Berlin, et puis le 2 à Prague. Alors vous partez comment? En autocar?
On va partir en bus, tout à fait. On va partir donc demain soir, on va rouler de nuit.
On dit autocar et autobus, il ne faut pas confondre. Autobus, c'est en ville,
voilà,
c'est un autocar, parce que on a eu le président des autocars du Bas-Rhin, là, il m'a fait la leçon là-dessus, donc vous partez en autocar. Et vous êtes deux autocars, alors?
On sera un seul autocar, donc on part à 60 musiciens, on est un peu moins nombreux, parce qu'il y a déjà des étudiants qui vont travailler début du mois de juin, donc ils ne peuvent pas partir avec nous. Tout le monde n'a pas pu venir, mais on va partir à 60 musiciens. Donc
avec une remorque derrière pour mettre les violoncelles ou...
On va essayer de tout mettre dans la soute, ça va être un petit peu compliqué.
Et alors, il y en a peut-être qui veulent venir et qui ne peuvent pas vous sélectionner ou alors,
Il se trouve qu'on avait pile assez de personnes pour entrer dans le car.
Vous pouvez, c'est un petit peu modulable, les pièces que vous jouez, s'il manque un violon, c'est pas trop...
Oui, voilà, notamment chez les cordes, on a un petit peu de flexibilité. C'est plus problématique pour les instruments avant qui sont solistes.
Ah ouais.
Donc là, si quelqu'un manque, on demande aussi aux orchestres, puisqu'on est accueillis par les orchestres des villes que vous avez mentionnées, qui proposent aussi à certains de leurs musiciens de jouer avec nous. Et donc,
c'est formidable.
Ils viennent nous renforcer, là où on a des besoins.
Il faut faire une répétition ensemble avant, mais de toute façon, voilà. Et alors le chef,
Mauro Mariani,
lui, il joue du violoncelle et de la clarinette. Et il pourrait s'asseoir au pu. Et vous ne faites pas des petits, comment on pourrait dire, c'est un bœuf, ça ne se dit pas pour la musique classique.
Oui, c'est vrai que ça se fait moins. Et je pense qu'il a aussi un peu, il s'est maintenant concentré sur la direction et il joue de moins en moins, mais c'est vrai que ça pourrait être rigolo.
Voilà. Alors, catastrophe pour l'esprit de Strasbourg, le fait que vous ne puissiez pas jouer. Je suis prêt, vous pourriez jouer tous les... Enfin, au moins une fois par semaine, non? Certains, enfin non, ce serait impossible techniquement et tout, mais je pense que je reviens sur le mot jubilation. Voilà.
On serait tous ravis de pouvoir le faire, d'avoir une carrière de musicien professionnel, puisque on aime tous la musique au final dans l'orchestre. Et mais il y a un côté intéressant aussi dans le fait d'avoir, donc on a chacun nos études, certains travails, voilà, et d'avoir l'orchestre un peu à côté pour jubiler quelque part chaque semaine et donc à la fin des semestres
Alors,
pour ces concerts.
Dans le public, il y a les gens qui aiment beaucoup la musique, qui suivent vos programmes, mais surtout il y a les copains, il y a la famille qui remplissent la salle.
Hein, oui, c'est ça. Oui. Également beaucoup d'étudiants qui viennent parfois pour la première fois écouter un concert symphonique. Ça fait partie aussi de notre objectif de démocratiser au maximum le répertoire. Et de faire connaître les pièces qu'on va interpréter au plus grand nombre, à des gens qui n'écoutent pas forcément de musique classique. Hein.
Alors, Florian Maurer, est-ce qu'il y a des solos pour trombone? Est-ce que ça existe?
Alors, c'est très rare.
Très rare,
mais... il se trouve que la semaine dernière, effectivement, il y a eu des solos de trombone et de contrebasse, ce qui est peut-être encore plus rare.
C'est
un instrument rarement
vu. C'est des transcriptions
Là, c'est originalement écrit, donc c'était dans Pulcinella de Stravinsky, qui a utilisé la contrebasse et le trombone, avec un aspect un peu humoristique quand même, pour apporter une touche d'humour à la pièce.
Mais alors ça, c'est un solo au sein
de
l'œuvre.
Tout à fait.
Mais vraiment, comme il y a des solos de violon, je disais le tambourin chinois de Kreisler ou un truc comme ça, est-ce que vous auriez une pièce de trombone où vous jouez tout seul? Il n'y a pas personne qui vous... Ça serait
possible. Il y a pas mal de pièces seules. Il y a aussi pas mal de concertos, hein, comme des concertos de violon. Il y a des concertos pour trombone, de Ferdinand David, par exemple, ou Grondahl.
Ouais.
Qui sont D'ailleurs, l'orchestre avait joué des concertos de trombone il y a quelques années avec Nicolas Moutier, qui est soliste à l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Donc ça existe, c'est moins connu évidemment, ça attire peut-être moins les foules qu'un grand concerto de violon, mais il y a un répertoire assez développé aussi pour le trombone.
Alors, on l'a dit, vous êtes en doctorat de physique quantique, donc c'est les atomes, les molécules. Quelle est la différence entre les statistiques et les probabilités?
Alors c'est une question du nombre d'échantillons. Les probabilités, ça va être des statistiques avec un grand, grand, grand nombre d'échantillons. Et la physique quantique fait intervenir les probabilités, puisque plus rien n'est certain en physique quantique. Il y a un aspect presque philosophique d'ailleurs caché derrière ça. On va mesurer des probabilités de mesurer quelque chose, mais c'est plus des mesures absolues d'une quantité. Donc c'est assez, assez fascinant.
Alors les maths et la musique, on sait que c'est très lié, Jean-Sébastien Bach, ou c'est que des mathématiciens qui devraient pouvoir le jouer. Max Planck, hein, que vous avez cité avant, il était musicien aussi, puis il a dû choisir entre la physique et la musique. Et voilà. Et vous, votre futur... future carrière quand vous aurez, vous serez encore un peu plus grand?
Bon, je pense que je suis plutôt parti pour de la physique là, puisque de toute façon, je prétends pas une carrière de musicien, mais c'est vrai qu'il y a des, au final, la physique reste des maths, donc je pense que les aires du cerveau concernées sont certainement similaires.
Quand vous aviez 5-6 ans, que vous avez commencé la musique. Vous avez pas commencé avec le trombone, vous avez fait du piano,
directement
du violon,
le trombone. En fait, dans mon orchestre d'harmonie dans le Haut-Rhin, à Village Neuf pour être précis, il y avait donc mon orchestre d'harmonie et des solos de trombone jazz, et c'est ce qui m'a fait découvrir le trombone, et j'ai voulu tout de suite faire du trombone, et donc j'ai fait du trombone dès l'âge de 6 ans. C'est pas forcément évident, puisque avec la coulisse, quand on a un petit bras, on n'arrive pas forcément à aller jusqu'au bout.
Ah, vous pouvez pas faire ni les trop basses et ni les trop aigus. Voilà. Ça. Ah, bah écoutez, c'est formidable. J'étais très heureux de vous rencontrer. Donc, c'était l'épisode numéro 116 de Vous l'avez bien connu, les neurones d'un trombone qui rayonne, Florian Maurer, le président de l'Orchestre universitaire de Strasbourg. Alors vraiment, vive la musique, il faut aller à vos concerts, tellement on sent la joie de jouer, vous donner envie d'apprendre la musique. Il n'y a pas d'âge pour commencer un instrument. Est-ce qu'on peut commencer le violon à 70 ans?
Ah, tout à fait. Oui. On a même un membre de l'orchestre qui a commencé la contrebasse en étant à la retraite. Donc, rien n'est impossible.
Ah, ben voilà. Alors, la semaine prochaine, dans Vous l'avez bien connu sur Radio Judaïka Strasbourg, nous resterons dans le domaine artistique avec Germain Reuss. Alors, c'est un peintre qui est très connu dans les galeries à Strasbourg et à Paris, mais c'est aussi un poète et un éditeur de poésie. Il a édité plus de 400 recueil. Vous l'avez bien connu tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi, à la technique Thomas Marinelli, et mon nom c'est Ambroise Perrin.